Bienvenue dans la bande originale spéciale Halloween. Pas de nouvelles de Nagui. Selon les dernières infos, il dit que les armes trouvées dans sa voiture ne sont pas à lui, ni la tête retrouvée dans la boîte à gants. Bref, sans Nagui, mais avec Albert Algou.
Oh, bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Guillermo Ernesto Gris. Dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau pour maltraiter l'info. Et bien sûr, la Julie Lescaut de France Inter, Leïla Kadour Boudadi.
Salut à tous et bienvenue. Notre invité aujourd'hui est Isabelle Nanty.
Bravo.
Isabelle.
M'applaudis. Hein.
Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue. Merci, dans la bande originale.
C'est agréable de commencer la journée avec vous.
Oh, ça nous touche.
Vous êtes une habituée.
Ouais.
Vous êtes la bienvenue ici.
Oh, vous êtes très gentille toujours de m'accueillir.
Et c'est vous vrai. Revenez pour nous présenter la saison 2 de Munch qui a déjà débuté sur TF1. Deux épisodes ont déjà été diffusés qui ont rencontré encore un franc succès. Plus de 5 millions de téléspectateurs au moins sur le premier épisode. Un double épisode avec une guest star, c'est Joey Star,
ouais.
Justement.
Comme son nom l'indique.
Et on va parler ensemble des deux suivants épisodes, la suite des Muncheries d'Isabelle Nanty sur TF1. Mais avant ça...
Qui sont prévues demain soir, les troisième
et quatrième. C'est demain soir, ouais. Absolument. Mais avant ça, l'interro, oh, traditionnel oui. Interro. Isabelle, vous ne répondez pas. On va voir si mes petits copains ont bossé leur dossier. Et s'il te plaît, Daniel, tu ne louches pas sur mes fiches. C'est parti. Où Isabelle aimerait aller pour une escapade en amoureux?
Au Luxembourg.
Non.
À Mulhouse.
Non. Ou chez elle.
C'est beaucoup plus atypique. Un indice, une boutique.
Chez Ikea.
Chez Auchan.
La durée.
Non plus. Ça n'a pas à voir avec la nourriture. Abandonner cette piste.
Une quincaillerie.
Et non plus. Hein? Pourquoi donc?
C'était loin. Parce que j'aime la quincaillerie.
C'est un parc d'attractions.
Non plus, pensez
à... Un magasin de chaussures.
Mais à une escapade en amoureux.
Un sex shop.
Si
oui.
C'est pas la nourriture... Non, c'est pas un sex shop.
T'as tout sous la main.
C'était ma proposition suivante, en fait.
Sauf que ça se passe la nuit.
Sex shop.
Oui, mais non, c'est pas ça.
Station essence.
Non plus.
Ah, ça c'est bien, ça. Ça c'est vrai que c'est super chouette.
C'est vrai que...
Un club échangiste.
Pas loin. J'entends par là. Que faites-vous la nuit?
Un disco dance.
On danse. Une discothèque.
Moi, je travaille.
Tu danses la nuit, toi?
Ça m'arrive.
Un magasin de literie.
Ah, un magasin de literie. Non, je m'en veux pas
parce que j'ai un point.
Isabelle,
je ne me rappelais pas avoir dit cette connerie, mais je me rappelle avoir
c'était
reçu
l'Express en 2008.
Oui, et je me souviens avoir reçu de la boutique en question un oreiller à mémoire de forme.
Alors
pour me remercier d'avoir fait la pub
de la maison de la literie.
Voilà.
Un oreiller à mémoire de forme,
qu'est-ce que c'est?
Moi, je suis hydrocéphale, j'ai une tête énorme, donc oui. Ça veut dire que la tête est moulée dans le définitivement dans l'oreiller.
Pas définitivement,
ah non,
mais
plus dormir sur ton coussin
chaque nuit, selon la tête que tu as, c'est-à-dire si tu as attrapé la grosse tête dans la journée,
elle s'adapte. Ouais, le matériel s'adapte.
Je connais qui en aurait besoin.
Qu'est-ce que vous allez demander aujourd'hui?
Pour les acteurs, c'est pas mal.
Oui, qu'est-ce que vous allez demander aujourd'hui? Parce qu'on nous écoute, ça se trouve, vous allez recevoir un cadeau.
Un édredon.
Vous pouvez faire une commande. Vous pouvez vous lancer dans une commande, Isabelle.
Un polo.
Je ne profite pas. D'ailleurs, je n'avais pas...
T'as rien demandé?
J'ai rien demandé.
Ouais, c'est ce qu'on veut. Un oreiller à mémoire de forme, c'est bien de se le faire offrir, c'est pas dégueu. Hein.
On poursuit. Pourquoi Isabelle a-t-elle arrêté de conduire après 20 ans de pratique?
T'es alcoolique.
Elle a renversé une vieille personne.
Non.
Ça aurait pu.
Ça aurait pu.
Elle était amputée des deux jambes.
Ça aurait pu. Repartez de la réponse de Guillermo.
Elle a perdu la vue.
C'est pas loin.
Elle est daltonienne.
Non plus, mais c'est pas loin non plus.
Elle est myope.
Elle est astigmate, myope.
Eh ben oui, les
feux.
C'est ça. Bon allez, pour Albert.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, les feux?
Vous ne voyez plus les feux.
Et pas que ça, ni les priorités à droite, à gauche.
Je ne m'imagine même non plus.
En fait, c'est un plébiscite familial qui a fait que j'ai arrêté de conduire.
De conduire, vraiment.
Ouais. C'est votre fille qui conduit maintenant?
Bah, bientôt.
Et ça vous manque
pas? Si, c'est très handicapant, mais bon.
Et dans les films? Ça, vous continuez.
Ah, ça, je dis rien. Mais c'est mon grand plaisir. Je leur dis pas. Je vérifie juste s'il y a une assurance.
Faites attention aux techniciens quand même.
Et voilà. Et je fais attention qu'on soit au point mort quand on fait semblant de démarrer. Parce qu'un jour, avec un acteur que je ne citerai pas, on a foncé dans l'équipe.
Qui ça?
C'était pas moi qui conduisais, mais.
Dites-le. Est-ce qu'il y a eu des morts?
C'est Edouard Baer, c'est
Non, 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 non.
Roland Berthin.
Roland Berthin.
Ouais. Et alors le génial Roland Berthin. Bah non, mais on était à l'arrêt et puis. Mais
la on m'a dit qu'il est plus qu'il était.
Enfin voilà.
Pas le caméraman non plus.
Non, mais moi je fais gaffe.
On va l'appeler à la pause, le caméraman.
J'ai conduit une voiture électrique là aussi. Dans Fais pas ci, fais pas ça, j'ai adoré. Et puis une Pontiac décapotable dans Montréal, toute seule. Et j'ai envoyé la vidéo à mes parents à l'époque en disant si je conduis une Pontiac décapotable dans Montréal, est-ce que je peux conduire la Twingo à Bar-le-Duc ?
Et alors ?
Eh ben, ils ont rigolé, mais non.
Ça, c'est tellement une réponse de parents.
Oui, mais non.
On continue. Isabelle a toujours quelque chose dans son sac. De quoi s'agit-il ?
De la drogue.
Un camembert.
Un revolver.
C'est une forme de drogue ? C'est une forme de drogue.
L'aspirine.
Non plus.
La vitamine C.
Mm-hmm. Pas de camembert non plus.
Qui a dit camembert ? C'est alimentaire ?
C'est alimentaire d'une certaine façon.
Et pas si Vichy.
C'est pas loin, c'est pas loin.
Des cachous ?
Ouais, mais à destination de qui ?
Des petits-enfants,
absolument.
Et j'ai aussi un imperméable.
Que je vous ai prêté.
Oui, voilà, merci.
Mais pourquoi ? Pour leur faire plaisir ?
Non, mais c'était fort. Quand ma fille était petite, j'avais toujours des accessoires de distraction pour quand on prenait le train et tout ça. Et ça calmait aussi les enfants autour, alors je donnais des sucettes.
J'ai un ami prêtre, il avait des carambars dans sa poche.
Oui, moi aussi, je le connais, c'est le même.
C'est le même, c'est ça. Vous continuez ou pas ?
Ils sont nombreux. Hein.
Non, mais j'ai quand même toujours un peu des trucs de secours pour les uns les autres. Des
préservatifs.
Voilà.
Parce que t'es prévoyant, quoi.
Voilà. J'ai une petite purse.
Une
petite purse de secours, justement.
C'est un petit sac, un petit porte-monnaie.
Jamais battu, ça s'appelle. Et donc, dedans, il y a plein de trucs.
On poursuit. Comment s'appelaient les deux poissons rouges d'Isabelle Nanty ? Alors ça, c'est pas fastoche à trouver.
Stone et Chardin.
Adolphe et Benito.
C'est des noms de politiques, c'est pas...
Raymond.
Nagui et Drucker.
Non, mais il faut remettre dans un contexte
alors,
d'époque.
Donner des indications.
Jacques et François.
Bah, c'était dans les années 70, 72.
Georges Marchais.
Sachant que l'un d'entre eux...
Il y avait Marchais.
Il y avait Georges Marchais.
Parce qu'il était rouge,
Valérie,
évidemment.
François.
Et le dernier, c'est un homme politique.
Krasuki.
Il avait un œil plus gros que l'autre.
Jean-Marie ?
Non, non. Je ne sais pas pourquoi je l'avais appelé Moshe Dayan. Mais...
Ah, Moshe Dayan. Oui. Non, mais quelle idée de donner des noms comme ça à ces poissons rouges ?
Ben, je pensais que c'était des...
Il avait déclaré la guerre à Georges Marchais.
Non, je pensais qu'ils étaient des humains. Que...
Et Moshe Dayan, c'est un homme politique israélien, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. Et pourquoi ?
Il avait un cache,
un bandeau.
Ça aurait pu être Jean-Marie, alors ?
Ça aurait pu être Jean-Marie, mais...
C'est qui Jean-Marie Dayan ?
À l'époque, on en parlait beaucoup moins.
À l'époque,
et on était plus heureux.
Par exemple. On revient à Munch, qui va vous rendre heureux. Vraiment, moi, j'ai adoré cette série, Isabelle, parce que déjà, vous voir vous en scène dans ce rôle de cette avocate intrépide. On commence la saison 2, vous êtes radiée du barreau, vous ne pouvez plus exercer, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre votre nez partout.
C'est-à-dire que si c'est pour éviter la prison à quelqu'un qui est innocent, elle essaie d'aller plus vite que toutes les procédures et en tout cas les enquêtes. Et du coup, comme là elle est suspendue, elle dit l'avantage c'est que je ne peux plus être suspendue vu que je suis déjà suspendue, donc je peux en profiter pour faire encore plus de conneries. Donc elle se gêne pas.
Et à vos côtés, pour faire encore plus de conneries, il y a Lucien Jean-Baptiste, il y a Aurélien Vic, il y a Tom Villa, il y a Paloma Coquan qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui incarne le personnage de Clarisse, qui elle aussi évolue entre la saison 1 et la saison 2. On voit nos personnages s'étoffer, on a de plus en plus d'informations
sur leur vie,
notamment votre personnage qui est assez énigmatique, parce que vous défendez la veuve et l'orphelin, vous n'hésitez pas à vous engager personnellement. Et on commence à voir se dessiner quelques éléments de votre vie privée, notamment ce cadre photo qui est sur votre bureau avec la photo d'un enfant. Mmh. Et on se dit, tiens, Munch a un lien avec un enfant, ce qui intrigue un peu toute l'équipe.
Voilà, et en plus, c'est pas toujours la même photo, ni le même enfant.
Et vous racontez, en réalité, pour vous en
ça
défendre,
nous arrive à tous,
hein. c'est un cadre haché dans une brocante.
Voilà.
Quoi.
Non, mais là, elle mytho à fond avec ce cadre. Et dans les prochains épisodes que vous verrez, on découvrira la vérité vraie.
Alors racontez-nous un petit peu alors les épisodes de ce soir, de demain soir.
Racontez-nous la fin sur
non, les... pas la fin.
On va gagner du temps.
Le premier d'entre eux prend place au sein de l'univers militaire. Ça c'est assez étonnant.
Oui. où une jeune femme est accusée de terrorisme parce qu'elle s'est enfermée dans la réserve à munitions. En fait, elle a fait ça pour en menaçant
de tout faire exploser.
Ouais. Mais en fait, elle a été agressée pendant la nuit. Quelqu'un a voulu la faire mourir pour l'empêcher de parler. Mm-hmm. Et donc, on va remonter cette source. Tel le saumon.
Tu remontes à la sauce. Absolument.
Voilà,
c'est en partenariat avec Chasse et Découverte.
C'est pas chez Chasseur, donc c'est bien qu'on les.
Ça aurait pu être une réplique de Munch, en fait. Ça aurait pu être une réplique dans la série. Tel le saumon.
Peut-être elle l'a dit.
Ouais, c'est un personnage. Alors, on est habitué maintenant, et c'est un grand succès, toutes ces séries qui mêlent le policier, le judiciaire, que ce soit du côté des flics, des avocats, à avoir des personnages comme ça qui mènent enquête. Alors, la spécificité de Munch et de ses Muncheries, c'est d'être un personnage très très attachant, parce que très humain, dimension très humaine, et aussi sans cesse qui renvoie à des plaisanteries, alors que les cas traités sont plutôt graves.
Oui, bah c'est un peu ce qu'on est tous, en tout cas autour de cette table.
C'est ce qu'on fait ici, tous les jours.
On a tous des vies tragiques et on essaie d'en rire. Mais...
Voilà, c'est exactement ça.
Si vous saviez.
C'est une défense.
Oui, c'est une défense. Alors, ça, c'est l'écriture, c'est le scénario, mais j'imagine qu'il y a votre rapport à vous, parce que quand on voit la bande qui vous entoure, qui sont tous, que ce soit Tom, qu'on connaît bien ici, Tom Villa, que ce soit Aurélien,
c'est notre
3%.
C'est notre quota.
C'est notre petit quota, Tom Villa.
À vous aussi.
Oui, parce que je vois. Voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il aurait adoré nous entendre parler de lui comme ça. Il y a cette dimension à chaque fois humoristique. Quelle est votre part à vous dans le scénario? Qu'est-ce que vous amenez?
À moi et aux autres, ouais. Parce qu'en fait, il se trouve qu'on est très content quand on voit le matin qu'on va être tous ensemble, qu'on va avoir des réunions où on fait le point. Parce que là, c'est l'occasion un peu de se lâcher, de...
Et de proposer des choses, le réalisateur,
bien sûr.
Je n'ai pas cité.
Alors là, pour les quatre premiers épisodes, c'est Nicolas Guichetot, qui est évidemment très client de nos inventions et de nos petits clins d'œil qu'on lui fait en fait à lui. Après, il garde pas. Enfin, on est un peu inferno quand on est tous ensemble.
Ouais, et pris individuellement, vous êtes plutôt sympathique, mais quand on vous met ensemble, c'est pas possible.
Voilà, exactement.
C'est ce qu'on a entendu.
C'est l'effet de groupe.
C'est ce qu'on a entendu.
C'est ce que Lucien Jean-Baptiste dit
énormément. Et ça veut dire que Nicolas Guichetot, il peine à vous contrôler quand vous êtes en réunion là.
Non, parce qu'on garde quand même... on a des journées à... Ouais. Enfin, le rythme est quand même assez soutenu.
C'est donc... quoi le rythme?
Oh ben, je sais pas, on fait un épisode en 10 jours. Donc c'est 52 minutes en 10 jours. Voilà, ouais. Et il y a des jours où on a 10 pages, ou enfin en tout cas 10 minutes à rentrer.
Hein, ouais, et la série, vous la tournez épisode par épisode ou justement non, saison
c'est comme on dit dans le jargon,
vous optimisez.
C'est cross-bordé.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire on tourne des scènes de l'épisode 1, 3, 2, enfin...
Paraît qu'ils sont gorés au montage. Pour que...
Ça se peut, hein. Ça se peut.
Mais les spectateurs regardent aussi dans ce sens-là. Hein.
Ouais.
3, 2...
Non, mais l'avantage, c'est... Oui. Munch, on peut regarder les épisodes. On peut regarder demain, Munch, les deux épisodes, si on n'a pas vu les deux précédents.
Parce absolument.
Ce sont des histoires isolées. Alors, il y a des éléments qui reviennent. On va comprendre que Lucien Jean-Baptiste, dans
Julien
la saison...
Julien Lepers, vous allez dire.
C'est vrai. Pourquoi?
Non, mais il y a des associations comme ça.
Paix à son âme.
Mais, ouais, il est mort trop vite. Oui, hein, il est disparu. Non. Vite, Julien,
c'est une belle vision. T'arrêtes la télé, tu meurs.
Pas comme ça des uns et des autres.
Lucien Jean-Baptiste, au début de la saison 2, est censé partir à New York.
Voilà.
Et il vous quitte.
Il nous quitte. Et en fait, là, on a découvert qu'il finissait par revenir. Mais parce que
vous lui manquez trop.
Il sent bien avec nous. Oui, ouais. Et puis il a des petits ennuis sentimentaux, donc ça arrange. Et puis on le choix.
Ouais.
On le dorlote.
Alors c'est une bande, ça veut dire que est-ce que c'est une bande qui en amont, en aval du tournage, passe du temps ensemble? On se pose toujours cette question, c'est la question qu'on nous pose nous ici au sein de la bande originale.
Est rapide, hein.
La réponse c'est non.
Non mais ça se sent à l'antenne.
On n'est pas payé donc on n'y va pas, on se voit pas.
Oui, voilà. Il faut être payé pour ça.
Non, moi je suis payé mais j'y vais pas.
Ben non, on se voit très peu en fait.
Ouais, d'accord.
Mais justement, du coup, on a des tas de choses à se dire. Et en groupe et individuellement, et en 100 jours de tournage, on n'a pas fait le tour encore.
Ouais, parce qu'il y a une vraie complicité qu'on voit vraiment à l'image.
Mais vraiment, il y a une affection.
Ouais.
Et une admiration les uns pour les autres. Donc, ça fait que, ben voilà, on a. On invente ensemble, on ouais. se respecte, il n'y a pas d'ego démesuré, il n'y a pas d'histoire. Hein. En vrai, c'est, bah oui, on ne peut pas dire ça à chaque fois, mais là, oui.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'on entend généralement ce grand discours, c'est une grande famille et tout s'est très bien passé.
À là, tel point que ça devrait s'appeler Munch, ça ne devrait plus s'appeler Munch, parce que ce n'est pas, c'est pas que moi, on est vraiment toute cette équipe. Et dans l'histoire, on suit vraiment l'évolution de leur vie à chacun et des choses qui s'entremêlent. Les uns aux autres et tout. Donc voilà, on pourrait. Moi, je n'imagine pas la série avec l'un d'entre eux qui ne serait plus là.
Oui, il faut que tout le monde soit reconduit et que tout le monde ait envie de participer à l'éventuelle saison 3, parce que c'est là aussi la question qu'on va se poser tout de suite.
Ben, on se posera cette question quand.
On aura les chiffres.
Quand les 10 seront diffusés.
On fait 5 millions à chaque fois.
Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous brosser un petit portrait, justement, un petit portrait robot de chacun de ces personnages au sein de Munch, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, pour leur donner envie de vous rejoindre demain à partir de 21h sur TF1?
Donc, il y a Paloma Cocan, que vous allez voir tout à l'heure, qui joue Clarisse, et qui est une femme qui a un parcours qu'on découvre petit à petit, qui a été assez dur. Elle a tué son ex-mari, son enfant lui a été retiré. Là, maintenant, elle travaille avec Munch. Elle est sortie, donc elle a fait sa peine. Et elle essaie de récupérer son enfant.
Il y a une petite histoire d'amour.
Il y a une petite histoire d'amour avec... le personnage que joue Tom Villa et qui s'appelle Aurélien, ce qui est compliqué pour nous parce qu'on a aussi Aurélien Vic qui joue Gaspard. Comme s'il n'y avait pas assez de prénoms dans le dictionnaire des prénoms.
Qu'est-ce qui a décidé ça ?
Il faut le dire au scénariste.
Bah, je sais pas, mais déjà dans Fais pas ci, fais pas ça, on avait ça. Valérie Bonneton Isabelle Gélinas jouait une Valérie.
Ouais, ouais.
Alors qu'il y avait Valérie Bonneton, donc quand on disait Valérie, on ne savait plus si on parlait du personnage ou de Valérie.
Et alors justement, Aurélien Vic, personnage de Gaspard.
Donc
alors,
lui, qui est un ancien flic.
Il est génial.
Lui, on ne sait pas encore pourquoi il n'est plus flic, mais en tout cas, il a été recueilli par Munch pour faire des enquêtes. Avec des méthodes de police, en fait, parce que bon, il sait aller chercher les... fallait de téléphone, aller fouiller dans les ordinateurs, il sait faire des tas de trucs, les filatures,
il sait donc faire beaucoup plus de trucs qu'un flic. Parce que vous n'avez jamais porté plainte, sinon.
Ils apprécieront.
Écoutez.
Voilà. Et Tom Villa, on en parle un petit peu quand même de ce personnage d'Aurélien.
Il a été d'abord pistonné.
C'est un fils à papa.
Le meilleur client, du cabinet.
Voilà, du meilleur client du cabinet. Donc, on a été un peu contraint de le prendre, surtout Munch, qui avait vraiment pas envie de faire plaisir à ce client. Et puis, finalement, il est attachant, ce petit homme, ce petit homme Villa, donc ce petit Aurélien Berton.
Ouais.
Et puis, en plus, il est doué, et puis, en plus, il est intelligent, et... et donc petit à petit...
On parle toujours de Tom Villa,
on vit avec.
Non, on parle du personnage. C'est un rôle de composition.
Après, il est un viral ici.
C'est moche. Puis il ne reste plus que Lucien Jean-Baptiste.
Lucien Jean-Baptiste qui joue donc Bélanger, puisque le cabinet s'appelle Munch et Bélanger.
C'est votre associé,
voilà. C'est un ami d'études. On a fait certainement nos études de droit ensemble. Munch a sûrement été un peu amoureuse
mais
de
oui,
lui.
Mais oui, on se demande quand même dans le rapprochement, il y a quelques scènes où on se dit que finalement ils seraient pas mal ensemble.
Moi je joue que je suis amoureuse de lui.
Ouais.
Alors c'est bien que vous l'ayez vu.
Enfin,
c'est pas amoureuse, mais c'est un couple en fait. Mm-hmm. Et puis comme elle s'occupe de la fille Bélanger a eu avec une femme qui est morte, etc. Donc elle est la marraine, donc elle s'en occupe. Donc ils sont un couple, en tout cas, vis-à-vis de cette jeune fille. Voilà, et c'est ça qu'on joue. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Les deux premiers épisodes, on a dit, il y avait Joey Starr en guest.
Ouais.
Et les deux qui vont être diffusés dès demain, dans le dernier épisode, il y a un autre guest.
Et alors, c'est là où arrive Stéphane Guillon.
Oui, c'est exactement là.
Stéphane Guillon, ouais.
Qui incarne un avocat assez désagréable.
Ouais. Un ex à Munch encore.
C'est ça.
Ah ouais, on découvre finalement qu'elle en a eu.
Ouais.
Elle en a eu des gars. Non mais là, aider des gars.
Ça défile au barreau. Hein.
Ça défile.
En tout cas, le troisième et quatrième épisode de Munch saison 2.
C'est vrai qu'on passe une minute de silence pour ce que vient de dire.
C'est demain soir sur TF1.
C'est une séductrice à Munch.
Ouais, ouais.
À sa façon.
Oui. Oh, ouais.
Ça va être un carton cette deuxième saison qui commence, et les troisième et quatrième épisodes demain soir. Mais Jean-Roger Navarro, pourquoi
savez, Morin, ben pourquoi, malgré que mon oncle Roger, le grand Navarro,
vous parlez comme Trapenard,
oui, qui était aussi le plus vieux, un peu mieux que lui, j'articule mieux, qui était aussi le plus vieux commissaire en service de toute l'histoire de l'humanité, malgré que tonton, donc, il se méfiait comme de la teigne du chameau, des baveux, des avocats, des avocates, de qui il me disait... Tous des entourloupeurs, ils ont la langue tellement bien pendue qu'ils sont capables de faire gober au juge que la camionnette à Émile Louis, elle était aussi inoffensive que la voiture jaune et rouge à Oui-Oui. Eh bien, malgré tout ça, je trouve que maître Gabriel Manchowski, alias Isabelle Nanty, elle est vraiment impeccable d'un minge, d'autant plus que malgré qu'elle soit suspendue, elle défend des personnes accusées à tort. Et même que ça me rappelle à moi un épisode de Navarro, saison 1, qui s'intitulait « Aux innocents les mains pleines ». L'histoire des frères siamois André et Marcel Zemmour, qui étaient accusés, mais c'est sérieux, d'avoir étranglé Raymond Péricouche, qui était leur maîtresse, mais que Navarro, il voulait prouver que c'était pas possible, parce que les deux frangins, ils étaient manchots des deux bras. Alors, leur avocate, maître Rachel Benchemoul, voilà qu'elle dit à Navarro.
Roger, revenez à Moon, s'il vous plaît.
Oui, alors, je disais donc, disais. Alors, oui, que c'est pour toutes ces raisons, elle, que Munch, qu'est-ce que ça va pas avoir comme succès? Et c'est pour ça aussi, Morin. Oui. Que je vous trouve encore plus faux que le Nagui.
Ah non, pas d'un seul.
Tout à l'heure, dans le bureau de la bande originale, JMB, le pauvre rédac chef de Coulommiers, là, qu'est-ce qu'il a pas pris comme avoiné? Fallait vous entendre, Morin, mais tu vas faire sa voix, parce que moi... Tu vas faire ta propre voix, parce que... je ne suis pas un imitateur limité, approximatif, comme Albert Algo, celui-là.
Ok, mais je vais la faire. Ok, je fais la voix, rédacteur, ok, je vais voir le rédacteur en chef.
Tu fais Daniel, vas-y.
D'accord. Isabelle Nanty, quand elle est venue pour les tuches, où elle joue Cathy, la femme de Jeff, c'était ok. Mais là, en avocate justicière, j'ai même pas vu les épisodes, mais je vois pas l'intérêt. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à faire jouer Tom Villa aux côtés d'Isabelle? Quitte à choisir un beau mec dans la bande originale, bordel, ils auraient pu me prendre.
Et ben voilà comment elle se prépare la bande originale, chère Isabelle Nanty. Alors juste une dernière remarque. Quand il s'agit de faire cracher sa merguez à un vrai salopard qui risque de faire accuser un innocent, je vous recommande le bottin de Babelouette que mon nom m'avait légué, mais... Un votre collaborateur aussi, mais j'ai pas le temps là, de faire la démonstration.
Merci Jean-Rendy Navarro.
Ça s'appelle une chute, ça.
Je crois qu'on va donner la chute, c'est une gamelle.
Vous avez rentré chez lui en cours de chronique.
Mais les humoristes, ils ont tous le culte de la punchline. Ça sert à rien.
La munchline.
La munchline, justement, on y revient à Munch. On parlait de Joe Starr dans les deux premiers épisodes. Ouais. Alors, la collaboration avec Joe Starr, parce que vous nous avez décrit finalement une petite famille avec Munch, avec Tom Villa, Aurélien Vic, Lucien Jean-Baptiste et Paloma Coquan. Arrivé dans cette famille-là, comment ça se passe?
Je crois qu'ils peuvent dire qu'on est assez accueillant.
Ouais.
On leur amène pas trop. On essaie de les mettre à l'aise avec nos façons de faire, ouais. de travailler ou de pas travailler, justement.
Comment
de
ça?
De ne pas avoir l'air de travailler.
Ah ouais.
Et voilà. Ce qui était intéressant, c'est que moi, je ne savais pas pourquoi, parce que je ne me mêle de rien dans la série.
D'accord.
Donc je ne savais pas pourquoi Joey Starr avait été pour quel rôle il avait été engagé.
Ah, vous n'avez vraiment pas votre mot à dire?
Non.
Non, d'accord.
Et je m'attendais à ce que ça soit pour un personnage qui soit vraiment en affrontement avec Munch, que ça soit du musclé, quoi. Et en fait, pas du tout. Mm-hmm. Et c'était assez surprenant, en fait, parce que je n'avais jamais joué avec Joey Starr, ni même je l'avais jamais rencontré. C'est que quand vous le regardez dans les yeux, il y a énormément de douceur et il vous révèle énormément de douceur. Je l'avais remarqué dans des films, ouais. Ça, que les partenaires se révélaient extrêmement doux avec lui. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est vrai qu'il y a... C'est un enfant. Dans l'œil.
Ouais, mais alors dans les interviews, on dit quand même beaucoup que les guests, en fait, disent beaucoup qu'ils viennent pour vous.
Ah bon?
Ouais.
Ça me fait plaisir, c'est gentil.
Enfin, ils disent rapidement qu'ils partent à cause de vous.
Ça, c'est une interview, on avait dit qu'on en parlait pas.
Quand vous posez ce regard-là sur Joey Starr, après, on va parler de Stéphane Guillon. Vous avez dirigé beaucoup de comédiens, vous avez enseigné aussi, on va y venir, dans la bande originale de votre vie. Vous posez un regard quand même particulier sur les gens.
Je sais pas. En tout cas, je peux pas mentir. Donc, quand j'aime bien les gens, je pense qu'ils le sentent. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, je n'ai joué qu'avec des gens que j'aimais bien.
C'est vrai?
Ouais, c'est une chance. Ah non, mais
jamais arrivé.
Quelqu'un qui va arriver en mettant une sale ambiance et tout, je peux pas. Je partirai. Je suis folle.
Ça vous est déjà arrivé de partir ou de renoncer à un tournage pour la sensation que ça allait mal se passer?
Oui, j'ai quitté une mise en scène comme ça. Deux fois même.
D'accord.
Ouais. Ah non, on m'obligera pas à subir.
C'est vrai, parce qu'on vous perçoit plutôt comme quelqu'un de tellement doux, tellement bienveillant, que vraisemblablement ça doit fonctionner avec tout le monde.
Oui, mais si...
Jusqu'à ce que ça ne marche plus.
Ouais. Si les gens arrivent avec leurs mauvaises ondes... Mais ça n'a pas été le cas, justement, là.
Mais Tati Daniel voulait filer des sacrés mandales, quand même. Ouais.
Ouais. D'ailleurs, j'ai lu que vous refusiez maintenant de
donner des claques.
Ouais. Mais de frapper les vieilles personnes.
Oui, non, mais...
C'est
ça.
C'est un principe de vie. J'ai arrêté.
C'est vrai.
Mais c'est marrant comme...
Dans un scénario, s'il y a une claque, c'est net.
Ah, maintenant, c'est terminé. Et j'ai jusqu'à... Non. C'était encore le film de... Je crois que c'était dans Mon Poussin où je devais donner une claque à...
À Pef ?
Non, à mon fils. Dans
Solivérez.
Le film. Solivérez, Thomas. Et en fait, j'énumère les gens comme ça.
Ouais.
Solivérez, Thomas.
Ouais,
c'est bien.
Bon, comme une maîtresse d'école, en fait.
Oui, voilà. Parfait.
Ouais. On s'appelle comme ça, nous.
Oui.
Morin Daniel. Louise Guillermo.
Ah bah justement, tiens, Guise Guillermo, c'est à toi. C'est parti. Ah,
ouais. C'est maintenant. T'es encore en train de se boucher, le pauvre.
Ça va, les amigos?
Ouais.
T'étais bien lancé.
Wow. C'était bien ça.
Il est saisi.
Vous savez que le métier de chroniqueur, parfois, ça donne envie de crever dans un reste de muesli. Et je dis pas ça parce que ce matin, j'ai un peu l'impression de jouer dans l'équipe B quand même. Je dis pas ça pour ça. Je disais.
Pourquoi? Oh bah dis donc.
Non, c'est pas les vrais. C'est pas les vrais présentateurs.
Ah oui.
Non, c'est vrai. J'en veux pour frère.
Merci pour cette chronique.
On est très heureux.
L'équipe B, c'est-à-dire c'est la D2.
Ah, on me fait signe que tu es appelé à l'extérieur.
Ah non, je vous explique.
Nagui, il aurait jamais fait ça.
Ah voilà, justement. Hier, j'appelle Nagui pour lui proposer un sujet de chronique. Et comme vous le savez, il n'est pas facile à joindre Nagui pour le moment. Il faut passer par le standard de la clinique, convaincre son médecin que non, on ne va pas placer les mots seringue, poudre, garrot dans la conversation parce que monsieur Nagui reste fragile malgré les sommes colossales qu'il a investies dans sa cure. Non. Et il finit quand même par décrocher. Il me dit Leïla, c'est toi et tout, t'as un truc, on fait comment? On se retrouve où? Il y a une porte secrète qui mène au parking. Je dis non, Nagui, c'est pas Leïla. C'est Ernesto, hijo de la mort de dos personas conscientes, c'est la stoleta de una oficina. Et je lui dis.
Ah, l'allemand.
Je lui dis, j'appelle pour ma chronique de demain, Nagui. Je lui dis, voilà, ça va. Si je parle de l'arrivée du fascisme au Brésil. Et il me dit, ah non, Tanguy l'a déjà fait. Je dis, oui, mais moi, c'est pour dire que je suis contre. Et là, silence. Enfin, j'ai bon, enfin, tant pis, alors, je vais parler des animaux sauvages qui s'éteignent. Et il me dit, ah non, Tanguy l'a déjà fait. Tanguy, il a pris un régime vitaminé, apparemment, pas de problème avec ça. Je vais parler d'Halloween, hein, il me reste deux vannes sur Nicolas Sirkis, j'ai toujours pas pu placer. Donc, il me dit, non, Tanguy l'a déjà fait. Mais c'est une blague ou quoi? Je dis, les sujets d'actu, c'est les fourmis. Tanguy, c'est un tapir, quoi. Vraiment, moi, je suis obligé. Moi, je suis obligé de sucer du lichen sur des cailloux, comme Francis Lalanne.
Ah bon?
Alors, bon, ben, ce matin, je vais vous parler du retour du froid. Qu'est-ce que je vous dise? Vous trouvez pas que le froid, vous...
Ah, si.
Allez, genre, vous préférez pas le chaud? C'est vrai. Il y a les auditeurs de France Inter qui disent, chérie, c'est avec nos impôts que le monsieur parle vraiment. C'est vrai. Oh, ça va, c'est pas un si mauvais sujet de chronique, le retour du froid. Déjà, ça a le mérite de tordre les rumeurs sur le soi-disant réchauffement climatique. Alors, on critique Trump parce que sa femme vient des pays de l'Est. En attendant, le mec sur le climat, c'est un visionnaire. Ah oui, qu'est-ce qu'on nous a bassiné avec le réchauffement climatique? Moi, à un moment, j'ai même cru. Moi, je suis un naïf. Sérieux. Moi, sérieux, j'ai failli envoyer un don à Yannick Jadot. Sérieux. N'importe quoi. J'ai bien fait de garder cet argent pour m'acheter un fusil. N'empêche, à ma décharge, en Belgique, on est vraiment déstabilisé. Six mois de beau temps. C'est plus arrivé depuis un peu avant le Big Bang. Vraiment. D'habitude, l'année chez nous, elle fait 385 jours juste pour pouvoir ajouter 20 jours de pluie en plus. Vraiment. Et là, on a eu full soleil. Je me suis dit, putain, on va finir par avoir des touristes en Belgique. Sérieux. Donc voilà. C'est pas un sujet de ouf. Je sais le retour du froid, mais ça permet quand même de rappeler qu'on est en 2018 et qu'il y a encore des gens qui dorment dans la rue. Et je dis ça surtout pour vous, Daniel. Parce que là, c'est vrai, on se sent fort parce qu'on a pris la place du patron. On se dit que ce sera pour toute la vie, hein, qu'on pourra continuer à demander à un stagiaire de faire son lacet. Eh ben non, un jour le patron il va revenir, Daniel, il va réprimer le putsch et hop hop, le temps de dire ah ben ça, ma mère Dogan, ma mère. Eh ben voilà, on se retrouve sous un pont à taper la discute avec une bouteille de mauvais pinot, comme Philippe Risoli. Oui. Et à ce moment-là, on se dira ah ben ouais, et c'était pas si mal quand le belgo péruvien syphilitique et insectophobe nous parlait de froid. Ouais, vous, Daniel, vous pourrez vous dire oui, moi ça me pendait au nez la rue, hein, mon look c'était donc prémonitoire. Alors, parce que bon là, l'État français il a beau avoir annoncé l'ouverture de 14 000 places supplémentaires en cas d'urgence, je vous le dis quand même, le froid ça tue. Cette semaine à Bruxelles, il y a deux femmes qui sont mortes dans la rue. Voilà, merci Tanguy, grâce à toi j'ai cassé l'ambiance. Allez, bonne émission les amis.
Bravo Tanguy Bastion.
Sur France Inter.
Vous êtes péruvien?
Voilà, mais
quasi d'adoption.
Quelle saloperie celui-là. Oh, tu m'as fatigué, tiens. Catherine Ringer, Ding Dang, donc, dans la bande originale sur Inter.
se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuages d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un parfait. Par la fenêtre ouverte triomphe l'été. Avec les feuilles du peuplier, la lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la belle heure pour s'aimer. L'aurore tend fort, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
Ding Dang Dong, Lerita Mitsuko, évidemment, la belle voix de Catherine Ringer, dans la bande originale.
Dans la bande originale, toujours avec Isabelle Nanty pour les 3e et 4e épisodes, demain soir à 21h sur TF1, de Munch, le retour de l'incontrôlable Munch aux méthodes atypiques.
Et au grand cœur.
Et au grand cœur.
Alors
oui.
On me demande souvent, est-ce qu'il faut dire Munch ou Munch ou...
Alors dans la série, vous dites différemment, je trouve.
Bah, comme c'est Munchowski,
ouais.
Quand on dit Munchowski, c'est Munch qui vient.
Munch, ouais. Hein.
Mais on peut dire crunch aussi. Ouais. On peut dire flunch.
On a un petit creux là.
Voilà. Ouais. On peut dire crunch. Voilà.
Munch, c'est muncherie ou muncherie, peu importe. En tout cas, c'est voilà. Vous, Isabelle Nanty, qui revenez pour cette deuxième saison sur TF1. Comment vous avez accueilli le retour de la saison 2? Est-ce que vous avez une pression particulière? On parle toujours de ça parce que on sait très bien que si la saison 1 n'avait pas aussi bien fonctionné avec plus de 6 millions de téléspectateurs sur certains épisodes, la saison 2 n'aurait pas eu lieu. Là, il y a eu un changement en plus d'horaire en termes de diffusion. Vous, est-ce que vous êtes préoccupé par ce genre de choses ou vous...
Non, nous on reste, enfin je pense que tout le monde, on reste concentré sur le faire.
Ouais.
Et puis, mais en faisant attention à ne pas se singer, à ne pas, par exemple, devenir la caricature de Munch, quoi.
Ouais.
Donc voilà, on fait quand même assez gaffe. Mais voilà, il n'y a pas de pression, je crois que...
C'est quand même 5 primes sur TF1, c'est ça que ça
Ah ouais, moi je ne pense pas à ça.
Ouais, mais eux, ils doivent y penser.
Tu viens de mettre la pression.
Ils y pensent, mais une fois que c'est fait, de toute façon, bon, ouais. Ben, on verra bien. Et puis...
Et qu'est-ce que ça vous fait d'être un personnage récurrent qui rentre comme ça régulièrement dans le salon des gens? Parce que tout d'un coup, vous devenez hyper familière. C'est ce que moi j'ai aimé, c'est vous retrouver.
Ce que je ne voudrais pas, c'est que les gens pensent que je vais venir récurer chez eux. Je ne récure pas.
D'accord, ça vous fait pas.
Je pense qu'on devrait changer le terme de récurrent, comme une crème à récurer, et qui faisait des traces comme ça, comme les patins de patins à glace. Non, non, mais moi, ça me fait... Non, c'est vrai que
il y a une familiarité
pendant 20 ans...
qui est agréable.
Bah, en tout cas, les gens sont gentils, ils ont l'air contents. Voilà, mais je me souviens, enfin, il y a 20 ans, quand on m'avait proposé de faire de la télévision, et tous les jours, par exemple, avec Édouard Baird ou les Robins des Bois et tout ça, je n'avais jamais voulu faire parce que l'idée d'avoir un écho de soi-même possible tous les jours de l'année, ça me paraissait pas possible. Et surtout voir ma tronche. Au hasard d'ouvrir la télé comme ça. Donc là, on va occuper le terrain pendant un mois de l'année.
Ça va.
Ça va.
Et on va attendre.
Donc ça récure pas trop.
Ça récure pas trop.
Ça va pas laisser trop de traces.
Voilà.
On va revenir maintenant en musique sur certaines dates de votre parcours, si vous le voulez bien. Isabelle, on commence en 1978.
Waouh. Baissez les lumières.
Adoption.
C'est le moment des slow, si je dois reprendre une question traditionnelle de Nagui. Votre avis sur les slow, Isabelle Nancy ?
Ça sent la sueur.
Ouais.
Ah, le slow, ça sent la sueur.
Ouais, ça sent surtout le moment où je vais rester assis.
Isabelle Nancy.
C'est un moment de tension, c'est sûr.
Ça dépend avec qui tu danses.
C'est un moment de tension, quelle que soit la personne avec qui tu danses, parce que si c'est la bonne, bon, c'est une énorme tension, mais si c'est pas la bonne, c'est vraiment une...
C'est long.
C'est long.
Ah oui, c'est vrai. Angoissante. Et surtout pas que ça récupère.
Et c'est là qu'on jette des œillades désespérées aux copains autour pour essayer de sortir de cette
on
situation.
On fait des poux et des yeux en... Ou alors on fait des hyper-concentrations sur l'épaule.
Ah, ça sent le vécu.
Ouais.
Et on est, alors on est en 78.
On hume l'odeur du mal.
On est en 78, on fait un petit retour dans le temps. Vous êtes sur scène à cette époque-là dans la Cantatrice Chauve. Voilà, vous vous souvenez ?
La première fois que je suis montée sur scène.
Vous avez 16 ans.
Voilà, avec le compagnon de la Folliole, Jean-François Schaff, qui en était le metteur en scène. Voilà. Alors, ça fait partie des pièces que j'ai jouées sans comprendre. Et ça m'arrive souvent.
Comment ça non, mais vous mettez en scène, j'ai vu des mises en scène de vous brillantes, notamment la Comédie Française, vous comprenez mais plus que parfaitement les textes.
Je ne sais pas, je crois pas.
C'est vrai ?
Non.
Enfin, nous dans la salle on comprend que dalle. Mais...
Non mais justement c'est parce que je comprends pas quand je suis metteur en scène que j'essaie de faire en sorte qu'à un moment donné je comprenne, donc que tout le monde comprenne, parce que si je comprends, tout le monde comprend.
Ouais.
Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de pièces, plein de pièces que j'ai jouées et dont j'ai découvert le que j'ai joué, et dont j'ai découvert finalement bien longtemps après de quoi ça parlait.
C'est une petite surprise, des petits cadeaux.
Ouais,
quoi.
Donc c'est certainement j'ai un côté complètement dedans, et donc pas du tout distancié, et pas du tout voilà. Alors ça devait donner quelque chose, mais je trouve ça lamentable.
Et à cette époque-là aussi, vous tentez à deux reprises le conservatoire et l'école de la rue Blanche. Et j'aime bien ce que vous racontez là-dessus, parce que on a tendance à dire que...
Et on si devrait on, s'en inspirer.
Ouais, si on... Vous parlez de l'échec. Vous parlez de l'échec qui vous a vraiment longtemps, je pense, perturbé de ce point de vue-là, en termes de, voilà, de légitimité dans le boulot. Mais je trouve que vous le renversez bien. Expliquez-nous comment vous le voyez.
Ben là maintenant je le vois forcément différemment.
Mais c'est important de le
dire.
Mais
à l'époque, ça inscrit quand même quelque chose de fort en soi, c'est d'avoir raté autant de fois les concours qui était l'institution en fait qui vous autorisait implicitement
à dire je suis actrice.
Et puis à se rêver une vie d'actrice et moi ça a fait que j'ai eu envie. Quand j'étais prof, par exemple, après, de dire à tout le monde, fais ton chemin, fais ton chemin à toi. Tous les chemins mènent à soi.
Ouais.
Et de rester concentré sur son envie.
Et rater ne fait pas de vous un mauvais comédien.
J'en sais rien. En tout cas, moi, longtemps,
en tout
j'ai
cas,
cru.
Vous en êtes la preuve.
Je ne sais pas si je suis, franchement. Et ça, c'est pas pour ficher pour les compliments, ni pour. C'est très très sincère quand je dis ça. Je pense qu'on ne sait pas qui on est comme acteur, on ne sait pas. Et Dieu merci. Parce que le jour où on commence à savoir, on se joue.
Ouais,
on se regarde jouer, on a des tics, on utilise des trucs qu'on sait et tout ça. Et moi, j'essaye en tout cas de rester toujours dans... J'essaye des nouveaux trucs, je me dis, ah tiens, ça doit être bien de savoir faire ça. Par exemple, moi, je n'ai pas d'ironie quand je joue, dans ce sens où je ne suis pas en distance avec le personnage jamais.
D'accord.
Et j'ai vu des acteurs le faire, et je trouvais ça génial de pouvoir avoir un œil qui rit, l'autre qui pleure, je sais pas, d'avoir conscience que là on fait un truc qui est drôle. D'accord. Alors que moi j'ai jamais conscience si c'est drôle ou pas drôle.
Quand vous suscitez le rire, en fait, votre intention de jeu, elle est pas nécessairement là-dedans.
Non. Et du coup, c'est aussi ça qui me fait souffrir, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule.
Comme quoi, c'est mieux d'avoir des diplômes. Hein. On comprend mieux les choses.
Bah, oui, certainement.
Ça change rien.
Non, mais je pense qu'en tout cas...
ça doit rassurer d'être demandé. Bah ouais, parce que vous êtes demandé.
Oui, voilà. Donc c'est ça qui, finalement, confiance, finalement, c'est des actes. C'est de rentrer dans l'action. Et puis, petit à petit, vous vous dites quand même, j'ai fait ça. Donc,
ça ils ne sont vous pas
obligés.
Normalement, ça voudrait dire...
Oui. C'est un jour, Gérard Lanvin, je jouais dans un film qui s'appelait 3-0. Et j'étais morte de trouille, j'étais liquéfiée, je jouais avec Gérard Lanvin. Et il était adorable et tout ça. Et moi, je tremblais, je perdais mon texte, parce que je suis dyslexique, vous savez. Donc, j'ai plein de trucs qui se passent dans mon cerveau quand je fais quelque chose. Et donc, il a fait arrêter, on était dans un bus, il a fait arrêter le bus. Il m'a emmenée dehors et il m'a dit, écoute Isabelle, si t'as été choisie, c'est qu'on t'aime bien, c'est que c'est toi.
Ouais.
Tu te rends compte le nombre d'actrices qu'il y a, c'est toi qui le joues ce rôle. Donc arrête, regarde-moi, sois avec moi, je te parle, tu me réponds. Enfin,
ne te pose pas trop de questions, voilà. Oublie.
Et c'était quand même vachement sympa d'avoir fait ça parce que... Sinon, je crois que je serais toujours en galère.
Gérard Lanvin, qu'on va retrouver dans la saison 3 de 10% bientôt. Voilà, on en parlera la semaine prochaine quand Nagui sera de retour.
Et revient ?
Oui.
Voilà, on revient. On passe en 2001.
J'adore. Oh.
Ophélie Winter.
Et en 2001, c'est votre regard qui se pose sur des comédiens. C'est Gad Elmaleh, c'est Pierre Palmade. Que vous mettez en scène et vous devenez une metteuse en scène recherchée. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, signature Isabelle Nanty, ça devient aussi un gage de qualité.
Bah encore une fois, là, j'avais pas conscience du pourquoi de ça.
Pourquoi il vous dit pas ça, Gad Elmaleh, pourquoi il vient vous chercher ? Même chose pour Pierre Palmade ?
Non.
Comment se noue ?
Bah, je ne sais pas. En tout cas, quand je rencontre Gad Elmaleh, je tombe sous le charme. Mm-hmm. Je me dis, mon Dieu, mais j'ai failli dire non à ce garçon. Quand Pierre Palmade vient me chercher pour mettre en scène en 10 jours son spectacle, je suis très intimidée aussi parce que il a un esprit qui va tellement. J'avais l'impression qu'il fallait que je hisse mon spirit très très haut et le spirit de tous les points de vue, de toutes sortes de spirits.
Spiritueux.
Voilà, spirituel. Non, mais c'était on dit toujours qu'on est venu me chercher, mais en fait, j'ai l'impression que c'est à chaque fois eux qui m'ont sauvée. C'est toujours eux qui m'ont amenée plus loin, qui m'ont amenée à moi-même. C'est vraiment. Alors donc, si j'ai fait quelque chose de bien pour eux, ça a été un bel échange.
Eux qui vous ont sauvé, c'est la conséquence de ça. Mais au départ, c'est eux qui sont venus vous chercher quand
même. Oui, mais moi, je l'ai toujours vécu que de mon point de vue, finalement.
Ouais. Et alors, si vous deviez désigner un comédien avec lequel vous avez travaillé ou avec lequel vous aimeriez travailler, ce serait qui ? Parce que vous avez dirigé, on l'a dit, Pierre Palmade, Gad Elmaleh,
Julie Ferrier,
Jacques Weber,
Benabar.
Et beaucoup d'autres, la troupe de la Comédie Française notamment, Lafitte.
Par exemple, il y a Xavier Gallais qui est aussi dans la série Munch que je trouve un acteur génial. Il y a James Thierry que je trouve être un acteur génial. Il y a Vincent Elbaz que je trouvais être un des meilleurs de sa génération.
À l'affiche dans Liberté.
Mais qui est un génie en fait. Ouais. Et il n'a pas la place, je trouve, par exemple, Vincent Elbaz qu'il mérite.
Ça, c'est la réalisatrice du coup qui pourrait parler. Vous avez déjà réalisé un film, Le Bison. Ça donne des envies de continuer, par exemple, avec un Vincent Elbaz.
Ouais.
Vous y travaillez ?
Je travaille là un scénario et ouais, pourquoi pas.
Ah, voilà.
Bah, Vincent qui se demandait lundi, il savait pas ce qu'il allait faire.
Mais c'est ça qui est formidable dans l'Amazonia, c'est un lieu de rencontre, d'échange.
Il faut lui passer un petit message, parce que là, il a fini la promo dans Liberté.
Il allait pas bien quand il est parti. Donc voilà, si vous pouviez l'appeler en sortant, ça serait super. Et si on a pu contribuer, on est content.
Ouais, au rapprochement. On est comme ça, on est dans le partage. Et puis alors, pour vous faire plaisir à vous, vous savez, Isabelle Nanty, on serait prêt à faire beaucoup de choses. Il y a Romain Nikita qui nous a rejoint. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous êtes, vous êtes un habitué de l'émission et aussi de l'instant M avec Sonia De Villers. Vous êtes spécialiste des séries et justement, on a besoin de votre culture en la matière. On parlait tout à l'heure des séries policières judiciaires qui fonctionnent très très bien avec des héros atypiques. Munch s'inscrit dans cette lignée-là, mais la série à avocats, en gros, c'est un grand classique maintenant. Depuis combien de temps on voit ça sur nos écrans?
La série avec des avocats, c'est aussi vieux que la télévision, que les séries télé. La première, même si on l'a pas vue tout de suite en France, c'est Perry Mason.
J'adore.
Avec Raymond Burr, qu'on connaît aussi pour la série L'Homme de Fer. Mais il a joué cet avocat, Perry Mason, d'abord dans les années 50. On n'a pas vu les premiers épisodes en noir et blanc en France. Et la série a ensuite été reprise dans les années 80-90. Il y a eu deux périodes, un peu comme Columbo. Ouais. Et c'est un peu l'archétype du justement de cet avocat bon samaritain, puisqu'il ne défend que des innocents dont il doit prouver qu'ils n'ont pas commis le crime pour lequel ils sont accusés. Et en parallèle, avec son équipe, il mène l'enquête pour trouver le véritable coupable. Donc on a un peu cet aspect de l'avocat qui mène aussi l'enquête, qui se prend un peu pour un policier, ce qu'on a un peu dans Munch également.
Ce qui ne se fait pas vraiment en France.
Ce qui ne se fait pas, ouais, tout à fait.
Alors Romain Nikita, vous, dans les plus connus de ces séries, alors on vient d'évoquer Perry Mason, là tout d'un coup on fait un retour dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a comme grandes séries qui ont marqué le genre série à avocat?
Alors, un peu plus récent, il y a quand même Ally McBeal, qu'on avait pu voir sur M6, qui avait ce mélange de comédie de bureau avec les vies privées de tous les personnages.
Et la loi de Los Angeles aussi.
La loi de Los Angeles, un peu plus tôt, créée par le même, sur lequel on trouve le même scénariste, David Kelley, qui est lui-même un ancien avocat, donc il connaît très bien le domaine.
Daredevil?
Daredevil, le super-héros qui est un avocat qui est aveugle, donc la justice est aveugle, et qui résout aussi bien les problèmes dans la rue en se battant contre les méchants que justement dans les prétoires.
Qu'est-ce qui plaît tant dans le personnage de l'avocat, dans cette figure-là?
Il y a à la fois justement ce côté bon samaritain qui va défendre des innocents, il y a le côté parfois glamour dans la Los Angeles et le côté fric de la Californie. On a aussi des fois le côté retors des avocats parce qu'ils connaissent parfaitement la loi, donc ils peuvent la détourner. Mm-hmm. Donc on a aussi des avocats qui sont du mauvais côté de la justice. On a eu Glenn Close.
Qu'on appelle un avocat d'affaires.
Entre autres, il y a eu Glenn Close dans Damages, tout à fait. L'avocat de Breaking Bad qui maintenant a droit à sa propre série Saul. Better Call Saul. Ouais. How to Get Away with Murder, où ce sont carrément des étudiants en droit, qui utilisent leurs connaissances pour maquiller des crimes. Ça donne des intrigues très compliquées. Donc c'est ce côté un peu protéiforme de l'avocat qui fascine aussi, parce que l'avocat, il peut aller dans tous les domaines.
Et est-ce que c'est vraisemblable? Parce que on se dit la connaissance de la justice est forcément un petit peu dévoyée au profit de la fiction et de l'intensité dramatique, non?
Tout comme dans les séries policières, les experts qui sont censés être des scientifiques dans les labos, normalement, c'est pas à eux d'interroger les suspects, et pourtant, on les voit faire ça dans la série. On a toujours un peu cette prise de liberté dans toutes les séries pour que ça soit un peu plus intéressant et un peu plus dynamique.
Et alors, c'est plutôt une figure masculine ou féminine qui incarne cet avocat dans les séries majoritairement? Qu'est-ce qui se dessine comme tendance?
Ça a beaucoup évolué, comme pour les séries policières. Dans les années 50-60, on a eu Perry Mason qui était un homme, et justement, maintenant, depuis les années 80-90, avec Ally McBeal, ça s'est beaucoup féminisé. Il y a eu The Good Wife avec Joanna Margulies qui était une femme, et la suite maintenant The Good Fight avec ses anciennes acolytes qui sont aussi des femmes. On a l'avocate incarnée par Audrey Fleurot dans Engrenage qui est absolument extraordinaire, donc ça s'est en effet beaucoup féminisé.
Et quelles sont les séries les plus ratées de ce point de vue-là? Vous qui voyez tout.
Parce qu'on ne va pas les louper. Donc
non, non, parce qu'il y a forcément des ratés là-dedans, parce que c'est difficile de tenir une vraie tenue dramatique avec un personnage d'avocat, ça marche pas nécessairement.
Alors pour les amateurs de séries kitsch et ratées et pour les insomniaques qui regardent la télé la nuit,
ça, on aime bien.
On peut quand même se souvenir des séries des années 80 comme Tribunal et 4 divorces qui étaient
formidable.
Voilà, ça c'est une Madeleine de Proust je pense pour certains téléspectateurs, donc c'était des séries qui se passaient séries françaises qui se passaient entièrement dans le cadre du tribunal, et on avait des reconstitutions assez cheap tournées en vidéo en à peu près une demi-journée. Donc ça c'est quand même un grand moment de rigolade. Il y a eu des séries qui n'ont pas duré très longtemps. Dans les années 90, il y avait une série avec Marlène Jobert qui jouait une avocate. Ça s'appelait L'Avocate. Ça a duré 3 épisodes.
J'adore Marlène Jobert.
Donc voilà, il y, y a eu quelques tentatives comme ça qui ne sont pas allées très loin. Et c'est vrai qu'on a eu plus souvent des séries sur la justice avec des procureurs ou des juges.
Oui.
Il y a eu une série à la fin des années 70 avec Simone Signoret, qui s'appelait Madame la Juge.
Ah oui,
c'était en 78. Il y a eu une série avec Carlos qui jouait un juge des enfants. Donc c'est vrai qu'on
Carlos.
Oui, Carlos le chanteur, Carlos, pas le terroriste.
Oui. Donc,
il a fait quelques très bons épisodes le terroriste, mais on les a pas vus.
Merci Fred.
Et vous Isabelle, ça vous arrive voilà, pareil. Bah ouais. Comme Madame. Vous regardez les séries avec des avocats? Comme
Héro, non, non. Jamais. C'est très chronophage. C'est un terme qui vient toujours derrière série. Oui. Vous l'avez remarqué?
Oui.
C'est chronophage. Non, ni de la broderie, ni des séries, ni du tricot. Mais il y aura un jour, j'aurai le temps de faire tout ça, j'espère.
Et est-ce que vous regardez Munch?
Non, non plus.
Vous regardez pas? Non. Vous regardez
non.
Pas?
Non, bah non. Au secours.
Non, vraiment jamais?
Non.
Pour voir un peu ce que ça donne.
Non, je vais regarder j'ai regardé deux épisodes des quatre premiers,
ouais.
Et je regarderai quand même aussi deux des six derniers. Mais non, c'est anxiogène pour moi. Mais ce que je trouve quand même intéressant dans tout ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai. Que heureusement qu'il y a des avocats pour défendre les présumés innocents, par essence, et en tout cas les accusés à tort, parce qu'il n'y a rien de pire quand même que d'aller faire de la tôle pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Mais il faut quand même rappeler que dans la démocratie, le rôle de l'avocat est de défendre qui que ce soit. Voilà. Et que c'est quand même un truc qui mérite d'être défendu, ça aussi, comme la liberté de la presse.
Ouais,
comme...
Oui, parce que souvent, quand il y a un véritable salopard, on se dit, mais comment est-il possible de défendre le salaud parmi les salauds? Ben non.
Mais c'est héroïque.
C'est l'état de droit, c'est une des bases de...
C'est là que tu te rends compte que c'est un grand homme, l'avocat de Nagui, parce que le gars, il sait qu'il va manger, pourtant il y va.
Ouais. Non, mais on voit cette fascination pour ces grandes figures d'avocats. On pense à Dupont-Moretti, par exemple, qui va être sur les planches.
Vergès.
Qui, voilà.
Mais parce qu'ils allient aussi connaissance de l'humain, enfin de l'historique de l'humain qui l'a amené jusqu'à commettre son délit, mais il y a aussi une dimension philosophique. Et quand on voit les grandes plaidoiries de Badinter, c'est vraiment de la philosophie. C'est les Lumières, et on vient de là, nous la France, et le droit vient de là aussi. Et c'est à défendre coûte que coûte.
Et Romain, ces séries, est-ce qu'il y a un cycle? De même qu'on a assisté pendant longtemps à la série avec la mise en scène des flics, là, des avocats, est-ce qu'on sent au sein de la fiction française un mouvement, un renouvellement ou au contraire un filon à exploiter aussi parce que ça marche avec le public? On parlait des chiffres tout à l'heure de Munch, plus de 6 millions de téléspectateurs, là, plus de 5,5 millions.
Enfin, ah, ça baisse.
Non, mais c'est... Après, il y a eu changement de programmation, ça, toi, t'es méchant.
Ça n'explique pas tout.
Il y a eu des cycles dans le format de ces séries. D'abord, on avait beaucoup, dans les années 80-90, des héros uniques qui donnaient souvent le nom, était le titre de la série. Ensuite, on a eu des séries plus chorales. Il y a eu Avocat et Associé sur France 2. Et maintenant, c'est vrai qu'on arrive un peu à un mélange des deux. C'est un peu dans le cas dans Munch. On a le personnage principal joué par Isabelle Nanty, mais il y a toute son équipe avec elle. Et on suit aussi bien l'enquête ou le cas de la semaine que leur vie personnelle qui se développe au fur et à mesure des épisodes, ce qu'on n'avait pas du tout, par exemple dans Perry Mason, on ne connaissait pas du tout sa vie privée, c'était vraiment l'enquête à chaque fois qui se termine dans chaque épisode. Maintenant, on a un peu un mélange des deux.
Oui,
est-ce qu'il y a une série à venir avec des avocats là, qu'il ne faut pas louper?
Une série à venir avec des avocats
Munch,
qu'il faut...
non?
Voilà.
Au-delà de Munch,
il me semble.
Munch, okay.
En tout cas, demain.
En tout cas, demain.
Et ouais, si on parle de profession comme ça depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a une nouvelle profession qui émerge et qui va devenir un peu centrale dans des séries? Est-ce qu'on sent aussi une tendance de cet ordre-là? Parce qu'on sait que quand il y a eu toutes les séries sur la police scientifique, tous les gamins voulaient être experts, en gros, c'est ça. Moi, à l'époque des séries d'avocats, Perry Mason, ou même un petit peu après avec Ally McBeal, tout le monde voulait faire du droit.
Moi, à l'époque de Flipper, je voulais être un dauphin.
Et d'actari, moi, d'actari.
Médecin légiste.
C'est ça. Ouais. Quelles sont les professions qui ont la cote?
Il y a une série que j'ai vue, une série russe qui s'appelle Trigger, qui est très étonnante, qu'on a pu voir au marché de la télévision à Cannes quelques semaines.
C'est Tripostal?
Pas du tout. Non, c'est un. Trigger, c'est un psychologue qui provoque ses patients.
Avec du polonium.
Exactement. Non, pas exactement.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, pour un claustrophobe, il va l'enfermer dans une cabane et mettre le feu autour de la cabane pour essayer de le guérir.
Ah oui, ça, c'est
une bonne méthode.
Ça s'appelle de la thérapie. thérapie cognitive et comportementale. Voilà.
Et il est tellement jusqu'au boutiste qu'il est allé en prison pendant 10 ans pour prouver ses théories.
Ben merci beaucoup, on va s'arrêter là-dessus. Roman Nigita, Nigita. Vous signez Series Anatomy aux éditions Fantasque, que vous avez coécrit avec Alain Carazé. On vous retrouve dans l'Instant M. Vous êtes régulièrement aussi avec Antoine Decaune dans l'émission Pop 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 Pop. Non, pas du tout. Ben alors moi, j'aimerais bien. Et puis, vous écrivez pour beaucoup de magazines sur les séries, votre cœur de connaissance.
Tanguy Pastureau nous a rejoint. Tanguy, bonjour. Et Tanguy, paraît que la colère gronde dans les stations-service.
Oui, Daniel, les automobilistes sont en colère. Ils vont jusqu'à voler les serviettes de bain Boule et Bille, auxquelles normalement on a droit en cadeau au bout de 12 000 pleins. Parce que l'essence n'a jamais été aussi chère. Pour vous dire, ce matin, Jean-Claude, votre dealer, ne m'a pas proposé de coke comme d'habitude, mais un jerrycan de diesel.
La suite, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission. Notre invité Isabelle Nanty pour Munch saison 2, 3e et 4e épisode, demain soir.
Volontiers.
C'est le retour de la bande originale sans Nagui, mais avec Guillermo Guiz, Albert Agou, Frédéric Sigrisle, Tanguy Pastureau, qu'on retrouve d'ici quelques instants, et bien sûr Lila Kadour.
Bonjour à tous, c'est Isabelle Nanty dans la bande originale.
Si
vous saviez combien
Nanty
la paye, une fortune.
Et Isabelle, vous n'êtes plus toute seule dans cette bande originale.
Votre Paloma infirmière
Coco
est arrivée.
Voilà, Paloma, bonjour Paloma, bienvenue.
Bonjour Paloma,
C'est une première dans la bande originale, on est ravis de vous accueillir. On vous a vu dans le personnage de Clarisse dans Munch qui sera diffusé demain à 21h sur TF1, 3e et 4e épisode. On a parlé tout à l'heure un petit peu de votre personnage Paloma qui évolue au fil des épisodes et dans cette saison 2 particulièrement. Vous avez rejoint le cabinet et vous êtes particulièrement proche de certains membres de ce cabinet. quel plaisir vous avez eu à jouer avec Isabelle ?
Il n'y avait pas que plaisir. Un immense plaisir. Quand l'annonce tombe, déjà on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire. Et puis après, quand on y est, c'est juste du bonheur.
Est-ce que c'est impressionnant? Ça fait peur ou pas?
Oh là là, c'est terrifiant. Mais mon angoisse, c'était ça. C'était pas le personnage, c'était pas le texte, c'était Isabelle. Quoi.
Non, mais tu rigoles.
Et Isabelle donne des conseils.
Moi-même,
ou pas
je suis impressionnée. Par moi-même, mais.
Isabelle donne des conseils. Elle est bonne camarade sur un plateau.
Elle est surtout vraiment dans l'échange, en fait. Ouais. Et avoir quelqu'un en face qui donne, un acteur qui donne et qui n'est pas que sur son jeu. C'est très important.
Mais en fait, on est des êtres humains. On ne peut pas dire qu'un être humain, c'est mieux être un être humain qu'un autre. Donc, on ne sait pas mieux jouer qu'un autre non plus. Jouer, je ne sais même pas ce que ça veut dire, en fait. Donc, moi, je n'estime pas savoir quelque chose de plus que quelqu'un qui arrive. Donc,
Isabelle, vous avez beaucoup d'expérience et puis vous avez été auprès de certains acteurs. On a parlé tout à l'heure d'Edouard Baird, de Pef, des compagnons vraiment de jeu. Donc vous savez créer autour de vous cette atmosphère.
Oui, mais je ne sais toujours pas comment on fait pour jouer. Et je pense qu'il n'y a pas une façon. Et d'ailleurs, je m'érige contre les tyrans, qui pensent que il n'y a que leur façon à eux qui est la bonne. Moi, j'aime bien apprendre aussi de comment Paloma, elle a appris à New York, elle a appris en France, elle a plein de potentiel en elle et tout. Et moi, ça m'intéresse aussi de puiser dans ce potentiel-là, une inspiration, de la voir faire, ça m'intéresse.
Oui, vous venez avec votre
bagage, vraiment. En plus, Paloma Coquin a vraiment une façon particulière à elle de se concentrer, d'être là, d'être vraiment là, de regarder dans les yeux, comme Tom Villa a une façon aussi, un rythme très particulier.
Bien, lui. On embrasse Tom.
Et donc vous ne pouvez pas imposer votre façon, aussi tant est qu'il y en a une. Parce que le rythme de Tom n'est pas le même que celui de Paloma ou que celui d'Aurélien Vic ou de Lucien Jean-Baptiste. Donc c'est s'adapter aussi de jouer. Voilà. J'ai cassé l'ambiance.
Nous comptons sur vous, Isabelle. Tant pis. C'est avec joie, entrain et bonne humeur que je vous demande d'accueillir Tanguy Pastureau.
Ah ouais.
Le grand Tanguy Vassour. Alors Tanguy, surtout, surtout, il ne faut pas toucher à la voiture.
Non, Daniel, car la voiture est un prolongement de notre pénis à nous les hommes. Plus on en a un petit, plus on en prend une grosse. Par exemple, moi, je roule en Smart. Ont également adopté la voiture les femmes, ces êtres doux, aimants et voluptueux. Sauf Eva Braun qui sortait avec Hitler. Type pas très drôle, mais à l'époque, il y avait moins de choix. Tinder n'existait pas. C'était soit sortir avec le plus grand criminel nazi de l'histoire, soit rester pucelle. Donc, ne jugeons pas cette dame trop hâtivement avec notre grille de lecture d'aujourd'hui. Arletty en 43 couchait avec un Allemand. En 2018, au Cap d'Agde, tout le monde fait ça. Elle avait juste 70 ans d'avance. Bref, la voiture est une invention formidable. C'est la liberté. Vous habitez à Tulle, c'est pas très gai. À voir, il y a juste François Hollande qui arrose ses poireaux. Et ben, d'un coup de voiture, vous êtes à Brive-la-Gaillarde. Réalisez que c'est aussi glauque, si t'as quoi, vous vous donnez la mort. Mais l'époque change. Quand moi j'avais 18 ans, il suffisait d'avoir une 205 bonne jevie pour emballer de la Roqueuse FM aux cheveux crêpés. Et là, avec ses petites catins de gauchistes bobo, si vous n'êtes pas à Vélib avec un t-shirt fagot et des poux, elle ne vous regarde même pas. En ville, la voiture a mauvaise presse. Il faut dire qu'on va plus vite à pattes. À Paris, la mairie d'Algo est tout bloquée pour foutre des pistes cyclables pour 4 vélos en tout. Moi, j'en fais, c'est le désert. Une fois, j'ai cru voir passer Ramayad. Un jour, j'ai croisé un autre type à vélo. On était tellement émus de se voir qu'on a failli faire l'amour. Non, puis je me suis dit, non, l'homosexualité dans les médias, c'est tellement convenu. On va te demander de prendre position sur la GPA alors que tu t'en tapes. Un gosse, c'est pas un idéal, c'est une galère. Sauf pour le trafic d'organes, mais enfin, faut habiter au Brésil. Mais à la campagne, c'est une autre limonade ou un autre gin tonic, comme dirait Frédéric Becbédé. Parce qu'à la campagne, sans voiture, vous êtes isolé, comme le serait Jean-Luc Mélenchon dans un stage zen organisé par des Tibétains qui fument leurs ongles des pieds. Dans les bleds, tout a fermé, il n'y a plus de bureau de poste, plus d'épicerie, il y a un curé pour 30 patelins. Parfois, il a 5 enterrements le même matin. Il arrive au bord du trou, dit allez, salut Josiane, c'était cool, et rebouche. À la campagne, si une caïra vous braque votre carte bleue, vous pouvez lui répondre, ta bouche, bolosse, tu vas faire quoi? La première tirette est à 60 bornes, et même Amazon, tu peux pas te connecter à Internet, on est en zone blanche. Donc, on résume, c'est comme le rat des villes et le rat des champs, la fable de La Fontaine, là. Hein, celui quand il se baladait dans la rue avec son épouse, dont on disait, tiens, regarde, c'est la femme Fontaine. Bah, d'un côté, on a les citadins boboïsés en trottinette, de l'autre, les campagnards motorisés, parce qu'à part les 2-3 kényans de la Creuse, faire 15 km en courant pour acheter le pain, c'est pas jouable.
Et les Français sont de plus en plus nombreux à protester contre le prix de l'essence, notamment.
Ah oui, mais dès qu'on touche à la voiture, c'est l'emballement. Quand Édouard Philippe a mis les nationales à 80 km/h au lieu de 90, ça a été la folie. Les gens ne parlaient que de ça. J'ai arrêté les repas de famille parce que j'avais l'impression de voir Automoto. Une fois, j'ai cherché le bouton off sur mon oncle. Hein, je me souviens, il a dit ah oui, ici, là. Et le 17 novembre, le peuple va manifester contre la hausse du prix de l'essence. Déjà 80 000 participants prévus. Une manif contre les violences faites aux femmes, il y a 700 gus. Contre la dictature au Soudan, ils sont 12. Mais si les migrants, avant de couler, se font tuner par des nordistes qui leur collent des gentaliages dans le dos, demain, il y a 100 000 personnes à République pour demander à ce que Castaner file des papiers à toute l'Afrique. La voiture, pas touche. C'est une extension nous-mêmes. Moi, quand en deux roues, je tape le rétro de la Fiat Panda d'une dame, j'ai peur qu'elle porte plainte pour harcèlement. Hein, je me dis, elle va confondre son rétro avec sa hanche. C'est normal parce que si elle est vieille, les deux sont en plastique. L'essence n'a jamais été aussi chère, plus 23% pour le gasoil en un an, plus 15% pour le sans-plomb. Et là-dessus, les taxes aussi ont augmenté parce que c'est la fin du pétrole. Donc Bruno Le Maire à Bercy prend tout ce qu'il y a à prendre. Il s'est mis en mode Dalton. Il doit avoir une planque à Disneyland sous l'attraction Buffalo Bill où il cache tout le pognon. Et l'autre souci, c'est que tout le monde veut rouler propre. La voiture électrique, ça fait pas un bruit. Hein, au lieu de crier « ça va maloute !» à sa femme dans sa caisse à essence pourrie, on peut murmurer et ça change tout. « Bonsoir chérie, ce soir on se fait plaisir, c'est Hippopotamus. » Ça a une autre gueule que j'entends rien à ce que tu dis, mais ça doit être nul. Hein. Seulement les voitures hybrides électriques, ça coûte cher. Il y a une prime de conversion écologique de 2000 euros, les gens mettent 6 mois à la toucher. Or, les Français sont pauvres. Pour des Qataris, nous sommes des Roms. Hein, donc l'essence est hors de prix. Le prochain Fast and Furious va coûter 7 fois le budget de Star Wars, alors qu'on y voit juste des crétins avec des muscles foncés hurlant dans le cube, ils ont futé. Et rien n'est vraiment fait pour aller à l'électrique, voire à l'hydrogène. Encore moins polluant, c'est de l'eau. Imaginez en Belgique, avec toute l'eau qu'ils boivent pas, on peut faire tourner le parc automobile sur 4 ans. Hein. Donc résumons, si j'étais dictateur, ce serait mieux pour tout le monde parce que comme tous les bipolaires, je prends des décisions radicales. J'interdirais la voiture en ville, terminé. Hein, on se déplacerait sur le dos de Guillermo Guise. S'il marche aussi vite qu'il parle, là tu parles, là maintenant, normalement, dans 2 heures, t'es à Cambrai. Et j'interdirais la campagne, hein, parce que ça pue, que c'est plein de pesticides, les enfants ont un bras pour 12, hein, et comme ça, régler le problème global de la voiture. J'ai conscience que je ne serai pas populaire, mais Macron, il l'est. Il a filé tout le brosouf aux riches.
Il a coupé les retraites des gens et c'est le litre de diesel à 1,50€ qui va le faire tomber. La voiture, cette hystérie française.
Bravo, Tanguy Pastureau.
La bande originale.
Bravo.
Sur France Inter.
Donc Tanguy, lui, il part après.
Oui, c'est oui. Ça. Mais il en a rien à foutre du reste.
Hein. Il est timide. Il est timide.
Il a cherché son chèque.
Ouais, ouais, ouais,
c'est
ça.
Mais on embrasse Bibo. On embrasse
Bibo. Il a gardé des habitudes. C'est la radio privée.
Nous sommes avec Isabelle Nanty et Pamela Coquan.
Et Paloma.
Pamela Coquan.
Voilà.
Paloma, pour ceux qui n'ont
pas documenté sur la nuit du Hard.
Il l'a faite à la pause et je l'ai mis en garde, mais rien n'y fait.
Voilà.
C'est une mauvaise blague que tu m'as faite. Ouais, ouais, oh là là. Munch saison 2, pardon. Troisième et quatrième épisode. C'est demain soir. TF1, c'est ça?
C'est sur TF1. Ouf. Absolument. On retrouve les aventures d'Isabelle Nanty, de Munch et ses Muncheries, ainsi que ses petits camarades. Qu'est-ce qu'elle a de parallèle à vous, cette Munch, Isabelle Nanty? Vous disiez tout à l'heure que vous ne jouiez pas la distance ou l'ironie, que vous étiez le personnage. En quoi vous vous retrouvez dans ce personnage?
Ben, je ne me retrouve pas, mais ce qui est agréable, c'est de jouer un personnage qui a du courage.
Ouais.
Ouais, parce que j'en ai pas beaucoup, moi.
Comment ça?
Vous êtes très lâche, c'est connu.
Non, ouais. Non, mais j'ai pas de revendication, je prends pas position, ouais. Je suis assez...
Vous militez pas spécialement?
Non, 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 et donc ça me fait du bien.
Pourtant, vous êtes engagée.
C'est du bien
engagée
d'être...
dans les associations.
Oui, mais bon...
Vous n'y croyez pas, quoi.
Mais si, j'y crois.
L'association bien l'un sûr. Et l'autre.
L'un et l'autre. Puis,
qui sert des repas.
La Fondation Abbé Pierre.
Ouais.
Et puis,
vous êtes engagée.
Le Silence des Justes. Toutes ces associations qui font vraiment, que j'admire, parce que... Voilà, ils prennent le relais de ce qui manque un petit peu parfois et qui devrait être du service public. Mais
ouais.
Bon. Voilà. Munch, elle a du courage, elle a peur de rien, là où j'ai peur de tout. Donc ça me fait du bien. Peut-être ouais. Ça me donne un petit peu des petites, comme un petit vaccin pour réfléchir, pour devenir une femme un peu plus active.
Ouais. Et vous, Paloma, votre personnage de Clarisse, qui a traversé, on l'a raconté tout à l'heure avec Isabelle Nanty, hein, beaucoup de difficultés. Là aussi, on cherche à s'approcher au plus près de son personnage, de trouver quoi des résonances dans sa vie pour l'incarner, parce qu'on vous a vu dans beaucoup de séries, dans des films aussi. Je me dis, vous êtes une jeune comédienne brillante. Qu'est-ce qui fait que on s'approche le plus possible d'un personnage?
Alors, j'espère ne pas être trop proche de Clarisse, ouais. Quand même, parce que ce serait un peu angoissant.
Dans l'histoire personnelle, mais dans le,
non, mais bien sûr,
le caractère.
Clarisse, c'est un personnage qui a un côté sombre. Alors moi, c'est ce vers quoi j'aime bien aller assez naturellement. Donc oui, là-dedans, je vais chercher dans ce que je suis. Et après, pour le reste, je joue avec d'autres personnages. Donc je suis plus dans l'échange quand je joue avec mon fils. J'ai pas encore d'enfant. Donc par exemple, je vais chercher dans quelque chose de naturel que pourtant je ne connais pas.
Et puis on joue ce qui est écrit aussi.
Ouais, ouais, on joue la partition, mais bon.
Bah ouais. Et parfois il suffit de dire les mots pour que ce qu'on a dit, le public y croit.
Ouais.
Alors que voilà.
Il y a de l'instinct. Il y a beaucoup d'instinct dans le jeu aussi.
Et tourner, on parlait de l'économie d'une série et du peu de temps de tournage, qui n'est pas forcément très confortable parce qu'on ne peut pas refaire à foison les prises. Ça aussi, ça doit être une pression supplémentaire.
C'est une pression, en même temps, c'est une super école de faire une série. Parce que c'est vrai que le
vous
cinéma, c'est l'inverse.
Vous êtes passé par scène de ménage, par section de recherche loin de chez vous. Vous avez déjà eu cette expérience-là, mais...
Là, sur Munch, c'est mon premier vrai gros rôle à défendre. Mais oui, c'est sûr qu'il faut être dans l'instant, il faut être rapide, il faut être efficace, il faut être juste au moins tout de suite.
Ouais, ouais.
Parce qu'on n'a pas le temps de chercher, en fait, sur une série. Pas beaucoup.
On prend un petit peu de temps pour patiner, on va dire, l'écriture écrite.
Ouais.
Et
avant les prises, c'est ça? En échangeant, en répétant, vous répétez les prises ou pas?
On répète un peu pour patiner, un peu pour donner de la chair et du vrai à ce qui a été écrit et pas que ça ait l'air d'être récité, on va dire.
Ouais.
Mais, donc ça, on prend du temps pour ça. Mais une fois que c'est... Une fois que, on a un petit peu... C'est comme si on mettait un peu... On dérange la chambre. pour qu'elle se range toute seule après. Quoi.
Ouais, ouais. Donc... On va chercher, on va fouiner, puis après on remet en état.
Exactement.
Je vais présenter quelqu'un, lui patiner, donner de la chair, il ne sait pas ce que c'est. Frédéric Sigrist.
Ça va comme ça?
Ça c'était bien. Encore mieux lancé. Ouais.
C'est une émission placée sous le signe du lancement formidable.
C'est vrai.
Alors je vais parler d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, Emmanuel Macron est rincé. Le chef de l'État est comme les acidiques d'un chômeur en fin de droit, totalement épuisé. En ce moment, il a le sommeil d'une femme qui vient d'accoucher de triplé et dont le mari se serait barré quand il a vu le bruit que les gamins faisaient. Lui qu'on croyait infatigable, on pensait qu'il avait la longévité d'un Michel Drucker sous Red Bull, et ben il est au bout de sa vie. Dans les couloirs de l'Élysée, désormais, on l'arrête en lui demandant « Vous seriez pas Daniel Morin ?» tellement il a pris cher. Vous savez, les Français pensaient avoir élu Gérard Philippe.
Ça s'en va, c'est
pas grave. Un an après, c'est pas grave, ça va faire du silence. Les Français pensaient avoir élu Gérard Philippe. Un an après, il se retrouve avec Francis Huster. Et à la fin de son mandat, il va finir par ressembler au père Fouras. On va l'entendre dire « C'est mon projet !» C'est plus une présidence, c'est de l'obsolescence programmée. Le dernier truc qui a vieilli aussi vite, c'est les hand spinners. Même Brigitte Macron, qui pendant longtemps s'est quand même félicitée d'avoir pécho un petit jeune, commence à s'inquiéter. On lui fait de moins en moins de remarques sur leur différence d'âge. Et elle l'avait pas vu venir. Tu vois, président, logiquement, sur le papier, c'était tranquille comme boulot. Mitterrand, il avait le temps d'avoir une double vie. Chirac qui tapait dans tout ce qui bouge, Sarkozy pouvait faire la guerre à la Libye tout en allant à la Fashion Week et à Disneyland, même François Hollande avait trouvé le temps de séduire une actrice en se faisant passer pour un livreur sushi shop, et là Emmanuel Macron, le Kev Adams de la 5ème République, il est quasi en burn-out au bout d'un an, ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ça comme maladie professionnelle. En même temps, je comprends, elle a été chaude sa rentrée à Emmanuel Macron. Il perd des ministres comme la planète perd des espèces animales. Aux Antilles, il se fait prendre en photo avec la version Guada de Tupac et Snoop Dogg. Il y en a un qui sort de prison, l'autre qui fait des doigts. Quand il fait une allocution télévisée, c'est filmé par la télé albanaise et éclairé avec des ampoules basse consommation. Comme dirait mon fils si je confiais son éducation à Énergie 12 et à Guillermo Guise, Emmanuel Macron, il a le seum. Alors cette semaine, il a demandé à déplacer le Conseil des ministres à mardi au lieu de mercredi pour avoir 4 jours off. Et ça, c'est quand même dingue, parce que l'homme qui veut faire travailler les Français le dimanche, il se retrouve en week-end le mardi après-midi. Alors, entre ça et les ministres qui n'arrêtent pas de démissionner tout en te disant qu'il va falloir travailler plus longtemps, tu sens que cette majorité n'a pas décidé de gouverner par l'exemplarité. Emmanuel Macron, c'est un peu le Jonathan Daval qui te fait la morale parce que t'as oublié la Saint-Valentin. Alors, attention, président, j'imagine que ça doit pas être un métier facile, mais bon. En même temps, président, c'est pas une offre que tu trouves au Pôle emploi. On t'a pas forcé. T'as aucune conseillère d'orientation qui regarde ton dossier scolaire en disant « Bon bah, président, je vois que ça. » En général, les candidats au poste, ils sont motivés. Entre les signatures d'élus, les financements, les partis à gérer et la campagne à mener, le job, ça t'arrive pas comme une surprise. Le mec qui fait des études pour être astronaute, une fois qu'il est dans la fusée, on entend rarement dire « Ah mais putain, il y a quand même beaucoup de boutons. » Alors, j'imagine que ça a pas dû être facile pour lui d'annoncer ça au ministre qu'il allait prendre 4 jours off, parce que 4 jours de repos, ça veut dire 4 jours où Christophe Castaner va se retrouver tout seul. Non mais logiquement, selon toute vraisemblance, à son retour, Daesh aura pris le pouvoir et fait appliquer la charia. Parce que c'est le seul homme qui nous défend des terroristes en ce moment. Même les terroristes disent non, il y a un piège. Non, ils veulent nous mettre en confiance, c'est pas possible. Il y a un mec plus malin derrière, c'est pas possible. Seule Marlène Schiappa a su se montrer compréhensive avec le repos du président. Elle a déclaré, avec la distance d'une retraite à un concert de Franck Michael, Dieu s'est reposé au bout de 7 jours, Emmanuel Macron lui aura attendu 1 an, quelque part il est mieux que Dieu. Alors on ne sait absolument pas où Emmanuel Macron va se reposer, Brigitte ne veut pas le dire, alors on ne sait ni sa maison au Touquet, ni la lanterne à Versailles, d'ailleurs même lui ne sait pas où il doit aller, c'est pas un week-end, c'est rendez-vous en terre inconnue. Je pense que Frédéric Lopez va finalement rempiler pour l'emmener dans un endroit où il n'a jamais mis les pieds, donc je suis pratiquement sûr que Emmanuel Macron va passer ses 4 jours dans un parti de gauche.
France Inter. La bande originale.
Frédéric Sigrist qui sera ce soir au Théâtre des Deux Ânes à partir de 20h. Attention, Théâtre des Deux Ânes.
Nouvelle formule.
Nous sommes avec. Ça veut dire c'est bien. Nous sommes avec Isabelle Nanty.
Ça a été repris par Régis Maillot.
Et Paloma Coquant pour Munch, saison 2, 3e et 4e.
Pamela,
épisode.
Tu voulais dire.
C'est vrai, ça a encore changé. Nous sommes avec Isabelle Nanty et Mademoiselle Coquant. Pour Munch, 2e saison. 3e et 4e. Épisode, c'est demain soir.
Pomelos.
C'est
sur.
Ah ouais, j'ai pensé.
On va y arriver. Bone Dry Hills sur France Inter dans la bande originale.
Eh ouais.
In my dream, I see you there. Your eyes fixed in a vacant stare. drank all the blood. My heart is bone dry. Could give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Was a day when I did believe the things you say are what you mean. Dear sweet innocent me, how much it took for me to finally see. Bone dry. Drank all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Sha-la-la. Men like me drifting off, lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry. You drank all the blood. My heart is bone dry. Sha-la-la. Can't give you more cause you took all of it. Sha-la-la. Bone dry. Sha-la-la, bone dry. You take all of it, sha-la-la.
Bientôt midi 27 sur France Inter, toujours en compagnie d'Isabelle Nanty et de Paloma Coquin dans la bande originale. Il est temps de présenter des excuses, mon cher Daniel.
Absolument, désolé pour Jean-Marie Le Pen qui a appelé Leïla sur son portable à la pause pour dire qu'il aurait aimé qu'Isabelle vous donniez son nom à un poisson rouge. Alors c'est trop tard, Jean-Marie, pour mon pauvre, me recontre. En revanche, Guillermo l'a promis, il va donner votre nom à sa femme. Désolé pour Tom Villa dont le talent, la carrière, la mémoire, les sous-vêtements et l'avenir ont été souillés.
Ah ouais.
Isabelle mentir, général. Alors là, moi aussi ça m'a choqué, mais si c'est Isabelle qui le dit, il doit y avoir du vrai. Désolé pour tous les escrocs qui nous écoutent et qui ont pris une bonne leçon en découvrant la dyslexique Isabelle Nanty, qu'elle n'avait pas de diplôme, qu'elle ne comprenait rien à ses pièces. Alors c'est vrai, c'est choquant, mais côté arnaque.
J'ai dit, hein.
Côté arnaque, je rappelle que Guillermo Guise est payé et ça, c'est du vol, c'est du vrai vol.
De nouveaux épisodes de Munch demain sur TF1 à partir de 21h, épisodes 3 et 4 de la saison 2. C'était un plaisir de vous avoir,
merci
Isabelle Nanty et Paloma Coquin. Merci, merci d'avoir été avec nous.
Et demain,
vous êtes délicieux.
Oh, ça, c'est vrai qu'on n'est pas dégueu.
On est pas mal.
Et demain, notre invité sera Isabelle Carré pour Victor Hugo.
Et tout de suite, les carnets de campagne. Allô, allô, Philippe Bertrand.
Oui, bonjour ma chérie, bonjour les amis.
Bonjour, ça va.
Ils sont jaloux, continue mon Philippe.
Mais non, mais je parle à Isabelle.
Ah bon, d'accord,
merci,
j'ai bien partagé.
Eh, je vous entendais parler des deux ânes, c'est marrant quand même cette tradition à Paris, les deux ânes, les trois baudets.
Ouais.
Ouais. C'est théâtre, on fait beaucoup.
Le théâtre des deux boules aussi.
Oui.
Mais qui existe, je suis désolé.
C'est théâtre, on fait beaucoup des mules.
On va vous laisser là-dessus.
Tu vois, ça marchait pas avec les boules.
Bisous, Philippe.
Bonne émission.
Salut, les amis. Ciao.